Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Voilà, bonjour Salomon Ayoun, merci de me recevoir dans ton cabinet à Paris. Voilà, je suis content de te rencontrer et que nous parlions un peu tranquillement de... lorsque nous nous étions rencontrés la première fois, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était ta façon, j'allais dire tranquille, et authentique et loyale, de parler de la pratique de l'hypnose en médecine générale. Mais il n'y a peut-être pas que ça dont tu voudrais parler.
Oui, bien sûr. Et pour moi, il y a deux pratiques de l'hypnose, si on peut dire ça ainsi. En fait, il y a une hypnose, et puis on la pratique un petit peu en fonction des circonstances. Évidemment, comme médecine générale, quand je fais mes consultations en médecine générale, j'utilise l'hypnose, mais ce n'est pas du tout l'hypnose que l'on fait quand on fait des séances classiques d'hypnose. Voilà. Et ce qui est formidable lorsqu'on a acquis, on va dire, entre guillemets, des compétences en hypnose, en fait, on acquiert une connaissance de ce que c'est que communiquer et surtout d'écouter. Et dans ma pratique de médecin généraliste, au quotidien, j'ai donc appris ce que peut-être je n'avais pas avant, étonnamment. C'est à écouter. Et on est toujours pressé en médecine générale. Et j'ai presque compris qu'en écoutant et en posant des questions pertinentes et en communiquant mieux, finalement, on gagne du temps et d'efficacité dans la consultation.
Tu as tout à fait raison. Et moi, je dis souvent que, parce que j'ai été longtemps généraliste, l'hypnose a changé ma façon d'accueillir les autres et de les écouter. C'est ce que tu dis.
Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Et c'est fou comment on regarde les gens différemment, puis on les écoute différemment, on les observe au sens d'observer ce qu'ils émettent, d'autre que ce qu'ils expriment. Et je vais te dire, le regard est ressenti par le patient comme attentif, comme empathique. Et le patient sort parfois de la consultation en ayant un sentiment de « j'ai été écouté ». Peu importe ce que l'on a amené comme solution, il n'y a pas forcément des fondements à apporter. Il y a quelque chose qui apparaît dans le regard du patient, d'une reconnaissance d'avoir eu un espace où c'est
tout à fait
au-delà du symptôme qui
est fait.
Je veux dire vraiment. Alors évidemment, dans ma pratique, je sépare totalement la pratique de l'hypnose classique au centre de la séance d'hypnose proposée pour un arrêt du tabac, un syndrome post-traumatique, une phobie, etc. Voilà. Là, on discute avec le patient. Alors, je ne pense jamais, moi, directement à mon patient de faire de l'hypnose. Ils savent, c'est affiché. Je l'attends toujours que ça vienne du patient, qu'il lui soit adressé par d'autres personnes. C'est un petit peu difficile de faire un petit peu... c'est-à-dire de proposer...
Oui, non, il faut qu'il y ait une attente. Alors, on peut éventuellement...
Mais souvent, les gens savent.
Oui,
mais par exemple, parce que c'est quand même affiché sur la porte, sur le côté, avec les tarifs, etc., de nos consultations et tout. Et entre autres, l'hypnose, nous l'ont fait, donc ils savent. Et quand ils en ont envie, ils nous les demandent, voilà. Mais en fait, je fais parfaitement bien. Alors, ce qui est intéressant pour moi, hein, c'est dans la pratique quotidienne, c'est-à-dire de ma médecine générale, outre cette qualité de communication que l'on a un petit peu développée, améliorée, etc., c'est du coup, il y a l'hypnose conversationnelle prend une place juste formidable. Parfois, pendant 4 minutes de la consultation. Mais c'est là où on voit l'intérêt de l'hypnose conversationnelle, où on n'a pas besoin de formaliser ce qu'on est en train de faire. C'est simplement de mettre un petit peu de quelques métaphores, on va dire, bon, c'est assez banal de dire ça, mais on voit tout de suite comment on fait basculer le patient, par exemple, d'un état de souffrance dont il se plaint, à tout d'un coup un mieux-être simplement en le faisant sortir un petit peu de cet autocentrisme, je ne sais pas si c'est une langue utilisée, et hop, il part ailleurs, et hop, ça y est, il ressent, lui, que ça a changé quelque chose. Et du coup, la suite de la consultation diffère. Mmh. Elle n'est plus la même.
Ça, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, dans ma thèse de philo, j'avais beaucoup parlé de le premier geste, c'est pas un geste, c'est pour faire une analyse au temps, mais le premier geste par rapport à un autre qui souffre et qui vient dans le compte, c'est d'abord d'accueillir. Et une fois qu'il est accueilli, déjà, ça pèse un peu. C'est ce que tu dis, simplement. Puis alors après, justement, qu'est-ce qui se passe et juste, il est plus disponible à autre chose. C'est ce que tu décris, dans le fond. Hein, tu leur proposes, tu les écoutes, tu leur proposes quelque chose, mais ils étaient déjà, tu les as rendus disponibles, tu leur as permis.
Parce qu'ils arrivent dans des états parfois.
Bien sûr.
Par leur drame. Parce que des fois, il y a des gens, moi j'ai vu des personnes sur des choses simples, ne parlons même pas de maladies très graves, mais il y a des gens qui n'admettent pas qu'un jour leur corps leur fasse mal. Des jeunes de 30, 45 ans qui arrivent en ne supportant pas le fait d'avoir tout d'un coup une sciatique. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que ce corps qui m'attrape. Vous voyez, et ils sont dans un état de rébellion et ils attendent de toi quelque chose d'autoritaire. C'est-à-dire, ils veulent, non, c'est votre rôle de me. Et recadrer un patient, et ça l'hypnose nous apprend à le faire, permet de remettre un rapport plus loyal entre le patient et le médecin et de ne pas renverser la position qu'on doit avoir.
Et puis pas cet appel technique, réglez-moi. Voilà. Ça c'est très important.
Alors, je te dis, Roustan, que tu as évoqué Roustan, lorsque j'étais dans ma formation, ça m'avait un petit peu fait réagir lorsqu'il avait dit vous n'avez pas à vouloir. Peut-être que je trahis un petit peu ses propos, mais enfin, en tous les cas, c'était comme ça que j'avais dit. Vous n'avez pas à vouloir pour le patient. Vous êtes là et c'est déjà énorme.
Exactement.
Vous faites ce que vous avez à faire et le patient prend ou ne prend pas. Mais, et moi, je m'étais un petit peu rebellé en me levant et en disant non, mon objectif, c'est quand même de guérir les patients. Et il m'a dit, bah oui, mais là, tu risques de souffrir beaucoup. Et tu vas te remettre en question beaucoup. Donc, il faut faire ce que tu dois faire, tel que tu dois le faire, et laisse venir. Bien, fais-le honnêtement. Voilà.
Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend à faire des belles filles.
Pas du tout, il faut imposer. Et là, on est dans l'ouverture à l'autre, dans les proposants, les rencontrant. Et c'est une autre, c'est une autre approche de la médecine et de la relation. Mais je résume tout cela simplement à l'acquisition d'une compétence en communication,
tout à fait
au final. Et je ne comprends pas que dans le cursus médical, on n'ait pas, entre guillemets, imposé une compétence en hypnose, au minimum conversationnelle, mais en fait, l'hypnose n'étant que vraiment comprendre qu'on est d'un humain à un humain et qu'il y a des liens qui doivent se communiquer au-delà de la fonction. Je suis derrière un bureau en face de quelqu'un, je me fais quelque chose. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît, moi, dans la pratique au quotidien. Ben non, au quotidien, avec les patients qui changent totalement. C'est marrant parce que, tu vois, hier, j'ai une patiente qui revenait de chez la gastro-entérologue, qui lui avait fait la fibro, le ceci, le cela, etc. Et qui, en gros, la renvoie balader en lui disant, bon, écoutez, vos nausées, je n'arrive pas à avoir d'explication à vos nausées. Bon, mais je crois qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Ne vous prenez pas la tête, on laisse. Et elle est venue me voir juste pour que l'on discute et que l'on recadre ce genre de propos qui, reformulé par moi, lui est simplement expliqué que tout ce qui était important avait été fait, que heureusement il n'y avait rien de grave en sous-jacent, mais que ces nausées, on allait continuer à s'en occuper, mais d'une autre manière, avec une autre prise en charge, en faisant une autre petite forme d'enquête. Et elle me dit, c'est formidable, à chaque fois qu'on vient chez vous, au moins on comprend, vous parlez, vous expliquez.
Oui.
Ça n'a pas duré plus de 15
minutes. Moi. Mais elle décrivait peut-être une sorte d'abandon du spécialiste d'ailleurs.
C'était non seulement un abandon, mais un abandon. Il y a des façons d'abandonner.
Oui, mais là c'était violent. Oui.
La façon dont cet homme m'a rapporté le discours, en tout cas peut-être qu'elle avait vécu. C'était violent, c'était pas sympathique du tout. C'était ce qui est bon, c'est bon. J'ai fait un examen qui m'a apporté de l'argent, etc. C'est-à-dire la fibroscopie, le ceci, le cela. Maintenant, j'ai plus rien à faire pour toi. C'était fait très bien, hein.
Bon, ça, c'était l'hypnose. Alors ça, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Moi, ça me rappelait des souvenirs. Et on voit toute l'importance de l'autre. Et l'hypnose nous a appris ça, alors qu'on n'a pas quand on a rien. Alors, tu parlais d'une autre hypnose aussi, une autre formelle alors.
Alors, cette hypnose plus formelle, c'est-à-dire, moi, je comprends ça, moi, je me suis un petit peu spécialisé, on va dire, dans les syndromes post-traumatiques, les phobies, etc. Bon, que j'avais construit, c'était mal. Qui est une forme un peu protocolisée, mais qui n'est jamais identique, hein, je veux dire, d'un patient à l'autre. Ça, on n'aime pas trop chez nous les protocoles. C'est pas notre façon de faire l'hypnose, mais enfin, bon, globalement, il y a quand même une façon d'essayer de déconstruire ce qui s'est passé dans les... Bon, voilà. Donc là, par contre, je prends des rendez-vous. Donc, je fais ces consultations et ces séances d'hypnose qu'en fin de journée. Évidemment, ça ne peut pas se faire dans la journée où il y a trop d'appels, trop de patients, etc. Donc, dernière heure de la journée où j'ai mes rendez-vous. Puis ici, où je viens le mercredi, où je fais les séances. Donc, si tu veux, alors, cette hypnose-là, bon... Dans mon cabinet, je ne le fais pas ici. Dans mon cabinet, je reçois toujours les gens dans une consultation préalable que j'appelle privée. Parce que là, les gens, ils viennent ici pour ça. Bon, ils savent qu'ici, on fait que ça. Bon, ben, on les entretient, puis on fait la séance dans le cours de l'heure. Dans mon cabinet, ce n'est pas pareil. C'est le soir, moi, j'ai besoin que les gens viennent, me voient, et je leur laisse toujours. Ils veulent toujours prendre le rendez-vous tout de suite. Non, vous prenez qu'à faire. Et vous me rappellerez, on fait faire rendez-vous, mais je veux que vous ayez le temps de décider si ça vous convient, si vous avez envie de faire un travail avec moi ou pas, etc. Et j'installe d'emblée, lorsqu'ils expriment leur besoin, c'est un moment très important de recadrer leur demande pour ne pas qu'il y ait une attente, une fausse attente, une mauvaise attente. Et qu'on tombe d'accord à la fin pour dire voilà ce sur quoi on va pouvoir parler.
Le laisser cheminer un petit peu.
Voilà. Puis il y a un truc, c'est la light, toujours dans une autre conversationnelle. Mais surtout, je cherche à recadrer la demande, la repréciser. Et en les obligeant à réexprimer ce qu'ils attendent, il y a déjà la
solution. Oui. Il y a déjà la solution. Il souffre déjà des fins.
Et très souvent, quand ils viennent à la séance, me disent ça m'a fait bien hein. En fait ils ont travaillé les mots qu'on a
exactement
ont porté, voilà, et c'est une vraie petite séance d'hypnose conversationnelle, mais qui fait que et le patient et moi nous ne sommes pas dans une situation où on se sent un obligé de quoi que ce soit. On a déjà posé le fait que oui ça peut marcher, oui ça peut ne pas marcher, mais on est là pour expérimenter quelque chose et s'ouvrir à quelque chose qui peut venir. Ça change.
Oui,
dans la relation, le patient ne vient pas crisper le jour de la séance. Il est déjà plus détendu, il me connaît, il a compris comment allait se passer la séance, que l'hypnose, ce n'est pas ce qu'on voyait à la télévision, etc. Et il y a là une détente qui change totalement. C'est-à-dire, combien de séances ont été faites sans que l'on obtienne les résultats pour lesquels les patients sont venus? Combien? En 20 et quelques années, combien on en a eu? Je n'ai jamais eu un patient qui ne m'a pas dit « au final, merci, quand même, parce que ça m'a aidé bien ». Alors, peut-être pas pour le sujet proprement sur lequel on devait traiter, mais ça a fait du bien, parce qu'il y a eu la prise en charge, il y a eu la façon honnête.
Oui, une rencontre de qualité.
Voilà. Et je te le dis, honnêtement, combien de patients on n'a pas... Souvent dit, l'hypnose, c'est l'école de l'échec. C'est l'école de comment je peux être bien en échouant mes séances d'hypnose. En n'allant pas au résultat pour lequel on était objectivement...
C'est une bonne façon de... Que si on se convoque soi-même et efficace...
Mais c'est fini. Si, c'était François Rostand qui nous a appris ça. Si on se met la pression, on est foutu. Et ça, moi, pour moi, ça m'a changé. Même dans ma pratique au quotidien, je veux dire, de médecine générale. Et oui, je peux soigner, il n'est pas guéri. Ben, ce n'était pas de ma faute. Mais quand on est jeune, qu'on sort de la fête, on a juste été mauvais. On croit qu'on a juste été mauvais.
Alors que pas du tout. Sorry, c'est très intéressant, justement. C'est intéressant parce que j'ai presque un vrai généraliste, c'est-à-dire que tu as intégré cette hypnose dans ta pratique.
Ah oui, tu vois. Ça, je...
J'y
parce que combien de personnes d'Agramat me demandent de venir passer beaucoup plus de temps ici pour faire de l'hypnose, etc. Voilà, je fais les formations, ça m'occupe beaucoup déjà, etc. Mais je ne veux pas abandonner ma médecine générale. Je ne comprendrais pas. Non, sinon, il y aurait une contradiction. Parce que quelque part, j'ai fait une hypnose, je me rappelle très bien, avec un ami qui s'appelle Gilles Bordon, peut-être que tu as connu, il était peut-être chez moi, lorsque tu étais venu, mais bon, peu importe. Et on a fait cette hypnose ensemble, on s'était inscrit ensemble, ou un an d'état, peut-être plus, mais en tout cas, on avait en fait des cheveux. Et pourquoi? Parce qu'on avait observé qu'il nous manquait quelque chose dans notre médecine générale. Ouais. Si c'était ensuite pour quitter la médecine générale, ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. On faisait cette hypnose parce qu'on savait qu'il y avait on avait plein de patients à qui on n'arrivait plus à apporter quelque chose d'efficace qui ne soit pas médicamenteux.
Oui, tout à fait.
Et alors, quitter la médecine générale après avoir acquis cette compétence, c'était juste absurde. Alors que moi, quand je fais mes formations, la première chose que je dis aux gens qu'on forme, vous êtes infirmière, vous avez un métier, je ne vous apporte qu'un outil pour rendre votre métier encore plus efficace. C'est pas pour qu'elle devienne hypnothérapeute. On ne forme pas pour ça. L'anesthésiste infirmière ou l'anesthésiste lui-même, on ne lui demande pas de devenir hypnothérapeute. On lui apporte un outil pour optimiser la qualité de son métier.
D'accord.
Que ce soit le kiné, l'ostéopathe, les psychomotriciens, tout ce que l'on forme. Et nous, on va faire de l'hypnose en médecine générale pour quitter la médecine générale.
Et nous-mêmes, on a changé parce que ça nous a changé.
Après, non seulement ça nous a changé, mais ça a amélioré. Bah, je suis encore plus serein dans la pratique de ma médecine générale. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est...
Alors ça, ce que je vois aussi, tu parles là, tu parles des formations. Quand on fait des formations, c'est pour ça aussi qu'il y a certains participants, moi, qui ne sont pas très à l'aise, etc. Puis au bout de quelques jours de formation, on sent qu'ils sont déjà beaucoup...
Ils viennent avec une attente, et quand on est honnête et qu'on leur pose réellement nous ce que l'on parle, les gens adhèrent, ils comprennent parfaitement. Et tu vois, j'ai souvent dans mes formations des gens qui ont été dans d'autres écoles, un peu pas bien, machin, etc. Et qui viennent me dire, mais à chaud, on est peut-être que j'ai été formé, mais là je suis tranquille, vous m'avez rendu. J'avais tellement peur de faire l'hypnose avant. Il fallait faire comme si, et puis si on réussissait pas, c'est qu'on était des mauvais, etc., etc. Et là, vous nous dites, non, changez de faire, laissez venir, ouvrez-vous, vous n'avez pas, par exemple, ils veulent faire de l'hypnose tout le temps. Amen. Et de toutes les façons, quand vous faites votre pansement, d'habitude, vous le faites. Pourquoi là, maintenant, vous allez mettre de l'hypnose tout le temps? Et imaginons que ça ne marche pas. Bah, très bien, vous revenez au stade en D, c'est-à-dire de faire votre pansement sans hypnose. Par contre, si ça marche, le pansement est une qualité. Le patient avait depuis un moment, voilà. Et dit, alors pourquoi vous angoissez? Il faut que ça marche à tenir. Pas du tout. Quand ça marche, c'est juste merveilleux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On fera le pansement quand même.
Tu vois, c'est ça qui est intéressant quand on t'écoute. Tu dédramatises, c'est pas que tu dédramatises, tu enlèves ce souci de performance qui est en train de décrire la relation, alors que les chevaux, ça m'a accueilli à l'autre.
Et ce qui me fait très plaisir, c'est que moi, tu sais que je fais des week-ends, samedi, dimanche. Et un mois après, je les reçois à nouveau pour un deuxième week-end et on fait peut-être pas des week-ends. Dès le deuxième week-end, mes élèves reviennent avec des expériences parce qu'ils ont déjà commencé. Et je leur dis, faites des petits trucs.
Ouais.
Ne cherchez pas à faire des trucs énormes, des tout petits. Pour prendre plaisir à entrer en contact, à faire des petites choses, et vous verrez. Si vous voulez faire des énormes trucs, si le type il arrive, il dit je veux mourir, et vous dites je vais prendre en charge ça, vous êtes mal pas, parce que là c'est trop compliqué, même moi c'est trop dur.
Alors, ça, ouais, c'est, pour conclure, c'est comme toute la force de l'hypnose moderne, cette hypnose ericksonienne, quoi, en fait, je peux avoir ce prof, je disais tout là, pour fight. Enfin, accueillir l'autre et s'adapter à l'autre.
Mais avec modestie.
Voilà.
Je dis toujours aux gens, prenez le profil bas.
Exactement.
Ne vous faites pas le torse. Ne vous mettez pas en situation d'échec. Ne vous mettez pas en situation de vouloir mettre la barre tellement haut que vous allez vous donner un pourcentage d'échec trop énorme. Plus vous irez sur un point le plus mini possible à améliorer chez le patient, plus vous aurez les chances de le faire et vous créez un lien de confiance. Ouais. Parce que le patient va vous dire, ah, oui, ça a marché, donc on va peut-être...
Voilà, puis après ça bouge, et voilà.
Puis après, on peut aller sur plein de jours. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui bah, tu sais, finalement, quand, tout ce qu'on est en train de dire, c'est presque quelque chose qui devrait être appliqué tout le temps dans la vie. Ça paraît idiot, mais voilà, mais toujours des barres trop hautes. Puis après, on est surpris d'être un peu malheureux parce qu'on n'aboutit pas, on n'a réussi pas nos trucs. Et ben oui, mais vous voulez tout de suite sauter de maintenant. Voilà, ça commence à parfait, il est 50.
Bon, écoute, ça nous montre en tout cas un grand merci, je trouve ça très intéressant. Ben voilà, tu as publié des choses récemment, non? T'as pas le temps, tu bosses.
Ouais. Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Toi, tu aimes écrire, tu peux écrire facilement, moi, parle de facilement, que je m'écris.
Bon, en tout cas, un grand merci, Salomon, parce que tu parles, tu parles très bien, mais tu parles surtout de... C'est pour ça que je suis très content de t'avoir rencontré, de t'avoir écouté à nouveau. On réentend cette loyauté, cette authenticité et cet accueil, cette rencontre. Voilà. Le soin, c'est d'abord une rencontre. Et ça, on l'entend dans ton discours. Un grand merci, Salomon.
Un grand merci. Merci à toi.